La lingère Eudeline.
Le ciel de lit tendu d'un samis bleu sombre semé de fleurs de lys d'or paraissait un morceau de firmament nocturne. Les rideaux de la courtine, faits de même étoffe, frémissaient sous le faible éclairage de la veilleuse à huile suspendue par trois chaînes de bronze. La courte pointe de brocart d'or, tombant en plis raides jusqu'au sol, scintillait de phosphorescence étrange. Depuis 2 heures, Louis X cherchait vainement le sommeil sur cette couche qui avait été celle de son père. Il étouffait sous les couvertures doublées de fourrure et grelottait aussitôt qu'il en sortait. Bien que Philippe le Bel fût décédé à Fontainebleau, Louis éprouvait un malaise à se trouver dans ce lit, comme s'il y percevait la présence du cadavre. Toutes les images des dernières journées, toutes les hantises des jours à venir s'entrechoquaient en sa pensée. Quelqu'un criait « cocu » parmi la foule. Clémence de Hongrie refusait, ou bien elle était déjà fiancée. L'austère visage de l'abbé Égidius se penchait sur la tombe. « Nous ferons désormais 2 prières. »«
Savez-vous sur quoi elle compte? Elle espère que vous mourrez avant elle. »
Un coffret de cristal emprisonnait un cœur aux artères tranchées, aussi petit qu'un cœur d'agneau. Il se releva brusquement, son propre cœur battant comme une horloge dont le poids se fût décroché. Pourtant, le physicien de l'hôtel, examinant le roi avant son coucher, ne lui avait pas trouvé les humeurs mauvaises. Le sommeil réparerait une fatigue bien explicable. Si la toux persistait, on verrait le lendemain à prescrire quelques tisanes au miel ou à poser des sangsues. Mais Louis n'avait pas avoué les 2 défaillances ressenties pendant la cérémonie à Saint-Denis. Ce froid qui lui avait saisi les membres et ce grand vacillement du monde autour de lui. Voilà que le même mal auquel il ne pouvait pas donner de nom le reprenait. Torturé par ses hantises, le hutin dans une longue chemise blanche sur laquelle il avait jeté une robe fourrée marchait à travers la chambre comme chassé devant lui-même, et comme s'il risquait au moindre arrêt que la ville abandonnât. N'allait-il pas succomber de la même façon que son père, frappé à la tête par la main de Dieu? « Moi aussi, » pensait-il avec effroi, « j'étais présent quand on a brûlé les Templiers devant ce palais. Sait-on jamais la nuit qu'on doit mourir? Sait-on jamais la nuit qu'on devient fou? Et s'il parvenait à franchir cette abominable nuit, s'il voyait se lever la tardive aube d'hiver, dans quel état d'épuisement ne serait-il pas le lendemain pour présider son premier conseil? Il dirait « Messire, quelle parole au fait devait-il dire ?»« Chacun de nous, mon neveu, subit dans la solitude l'instant du trépas et ses vanités de croire qu'il n'en est pas ainsi des instants de la vie. « Ah, mon oncle !» prononça tout haut le hutin, « pourquoi m'avoir dit cela ?» Sa propre voix lui parut étrangère. Il continuait d'errer, haletant et frissonnant, autour du grand lit drapé d'ombre. C'était ce meuble qui l'épouvantait. C'était ce lit qui était maudit, et jamais il ne parviendrait à y dormir. Le lit du mort. «
Passerai-je donc ainsi toutes les nuits de mon règne à marcher en rond pour ne pas trépasser ?» se demandait-il.
Mais le moyen d'aller coucher ailleurs, d'appeler ses gens pour qu'on lui préparât une autre chambre, ou puiser le courage d'avouer « Je ne puis loger ici parce que j'ai peur », et de se présenter au maître de l'hôtel, au chambellan, ainsi défait, tremblant et désemparé. Il était roi et ne savait comment régner. Il était homme et ne savait comment vivre. Il était marié et n'avait point de femme. Et si même Madame de Hongrie acceptait, combien de semaines, de mois lui faudrait-il attendre avant qu'une présence humaine vînt rassurer ses nuits?
Et voudra-t-elle m'aimer, celle-là? Ne fera-t-elle point comme l'autre?
Soudain, il prit sa résolution. Il ouvrit la porte et alla secouer le premier chambellan qui dormait tout vêtu dans l'antichambre.
« Est-ce toujours Dame Eudeline qui veille au linge du palais ?»«
Oui, sire, je crois, sire, » répondit Mathieu de Tri.
« Eh bien, sachez-le, et si c'est elle, faites-la acquérir aussitôt. »
Surpris, somnolent. « Il dort, lui, » pensa le hutin avec haine. Le chambellan demanda au roi s'il désirait qu'on changeât ses draps. Le hutin eut un geste d'impatience.
« Oui, c'est cela. Allez la quérir, vous dis-je. »
Puis il entra dans la chambre et reprit sa ronde anxieuse en se disant
« Loge-t-elle toujours ici? Va-t-on la trouver ?»
10 minutes plus tard, Dame Eudeline entra, portant une pile de draps, et Louis X aussitôt sentit qu'il cessait d'avoir froid.
« Monseigneur Louis, je veux dire, sire, » s'écria la lingère.
« Je savais bien qu'il ne fallait point vous mettre des draps neufs. On y dort mal. » C'est messire de Tri qui l'a voulu. Il affirmait que c'était l'usage. Moi, je voulais donner des draps souvent lavés et bien fins. »
C'était une grande femme blonde, épanouie, avec de larges seins, et une belle carrure nourricière qui faisait penser à la paix, à la tiédeur et au repos. Elle avait un peu plus de 30 ans, mais son visage exprimait une sorte d'étonnement adolescent et tranquille. De dessous le bonnet blanc qu'elle mettait pour dormir s'échappaient de longues tresses qui avaient la couleur de l'or et qui se dénouaient sur l'épaule de son vêtement de nuit. Elle s'était hâtivement couverte d'une chape. Louis la regarda un moment sans parler, le temps que Mathieu de Tri, prêt à se rendre utile, comprit qu'on n'avait plus besoin de lui.